Depuis un certain temps, vous me retrouvez toujours avec cet encouragement, cet impératif. Osez la foi, vous qui vous posez des questions, mais qu'est-ce que notre Église sera une fois le pasteur parti? Et je sais que pour certains, ces questions-là, vous travaillez pas mal. Et d'ailleurs, ce ne serait pas normal si ce serait autrement, hein? Sauf si tout le monde était soulagé que le patient enfin parte libre de mes chaînes. Voilà. Vous connaissez ce chant, voilà. Oser la foi, j'ai choisi exprès cette série et ce thème qui revient constamment parce que oser la foi se veut être à la fois un encouragement pour votre foi, mais c'est aussi, si je pouvais, vous laisser un héritage. Et vous témoigner de ce qui anime ma propre vie et ce qui fait ma propre foi. Voilà, oser la foi. Aujourd'hui, le thème se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, chapitre 1er. Fortifiez-vous et prenez courage. Quand le Seigneur m'a mis ce texte sur le cœur, je me disais, mince, ça sonne comme la dernière prédication. Mais rassurez-vous, il y en a encore d'autres. Fortifiez-vous et prenez courage. Voilà les textes que vous trouvez dans le livre de Josué. Ce sont juste après les cinq livres de Moïse jusqu'au Deutéronome. Que apparaît donc ce livre de Josué qui va être le successeur de Moïse. Et voilà l'encouragement que Dieu lui donne quand il est en train d'entamer une nouvelle étape. Parce qu'il faut maintenant passer de 40 ans d'errance dans le désert à prendre possession de l'avenir. Prendre possession des temps qui sont encore devant eux. Un pays que Dieu a promis, mais il faut le conquérir. Donc, j'ai deux tableaux. Donc, si quelques-uns voulaient partager ce texte avec nous tous.
Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles.
Oups.
Que ce livre ne s'éloigne pas de toi, ni deux jours et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Parce que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles.
Josué chapitre 1er, les versets 5 à 9. Fortifiez-vous et prenez courage. Il n'est jamais facile de succéder à de grands champions qui ont marqué quand même toute une époque. Moïse, le fidèle serviteur de l'Éternel, le grand conducteur de peuple, Let my people go, fais sortir mon peuple de l'esclavage. C'était la revendication et l'appel que Moïse a reçu de la part de Dieu pour le dire à Pharaon et puis le conduire à travers ce périple du désert. Moïse, le fidèle serviteur de l'Éternel et grand conducteur du peuple, est mort. Josué l'avait servi quand même pendant 40 ans en tant que second. Il a vécu de très près qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que sont les peines et les difficultés, cette lourde tâche d'être conducteur, devenir leader à la place d'un leader, d'un grand leader. Avant son départ, Moïse lui avait encore posé ses mains sur lui, et ainsi Josué avait été rempli du d'un esprit de sagesse, en Deutéronome chapitre 34, verset 9, comme à l'image de l'apôtre Paul qui impose les mains sur Timothée et fait de lui son successeur et son apôtre. Mais maintenant, Moïse n'est plus là. Ça, c'est le grand changement. Et ce n'est pas un changement d'heure, c'est un changement d'époque. Moïse, maintenant, il n'est plus là. Dès lors, quel sentiment d'inquiétude pouvait accabler son successeur, Josué? Il n'avait plus personne pour questionner. À qui je vais poser mes questions? Avec qui je peux aller pour demander conseil? Qui va me dire qu'est-ce que je dois faire? Josué ne savait pas trop bien quoi faire. Il n'était pas un aussi grand prophète comme l'était Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoie faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à la main forte sous les yeux de tout Israël. Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Et mince, je dois le succéder. L'avenir de ce peuple désormais est entre mes mains. Toutefois, l'Éternel, qui pouvait certainement lire dans le cœur de son serviteur Josué, est venu lui-même pour le fortifier. Dieu a clairement indiqué à Josué la mission qui désormais était devant lui. Lève-toi, passe ce Jourdain qui fait la frontière entre le désert et le pays promis. Toi et tout le peuple, tu feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Les versets 2 et 6. Après la mort de Moïse, Josué doutait de sa capacité à assumer ou être capable d'assumer une telle responsabilité. Là, j'ai dû penser à Vincent, à Caro, à Jean-Charles. Hein? Nous formons actuellement le groupe de travail. On réfléchit l'Église. Ça doit être pas être toujours joli et douter de sa propre capacité quand quelqu'un qui a quand même marqué toute une époque et toute une histoire d'Église n'est plus là. Si Dieu lui disait à trois reprises, fortifie-toi et prends courage. À Brême, ma ville natale, on dit toute bonne chose doit être faite et dite au moins trois fois. Voilà, Dieu l'a fait. Fortifie-toi, Josué, et prends courage. Je crois sur une balance entre inquiétude et courage. C'était la balance de l'inquiétude et de doute qui pesait beaucoup plus fortement que le courage. Mais Dieu voudrait renverser le poids et que le courage et la force que nous trouvons et que nous prenons dans la présence de Dieu soient finalement ce qui nous guide. Donc voilà, ça signifie assurément que Josué se sentait bien faible et découragé. Fortifie-toi et prends courage. Si Dieu lui disait, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, cela signifie assurément qu'il était effrayé et même terrifié à l'idée de prendre la suite de ce grand prophète qui était son mentor, Moïse. Alors Dieu dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai pas et je t'abandonnerai jamais. Verset 5. Dieu lui-même, avec sa toute-puissance, avec sa sagesse, avec ses possibilités, avec ses ressources illimitées, avait été avec son prédécesseur Moïse. Et tout le monde le voyait. Cela, d'ailleurs, a fait de Moïse un grand conducteur. Et maintenant, Dieu voulait être de la même manière avec son successeur, Josué. C'est très important dans les phases difficiles de passation. L'un part, d'autres prennent le relais. Comment on va assurer? Est-ce qu'on va faire aussi bien qu'avec celui qui, jusqu'alors, être notre conducteur? Dieu voulait être de la même manière comme il était avec Moïse. Il jurait d'être avec Josué. Voilà, j'ai réfléchi à quatre étapes qui vous aideront à réussir là où vous pensez peut-être de ne pas pouvoir y arriver. Ma première pensée est la suivante. Sortez du complexe qui consiste à vous voir comme trop petit pour accomplir des grands exploits avec Dieu. Bon, c'est une longue phrase, n'est-ce pas? Sortez du complexe qui consiste à vous voir comme trop petit pour accomplir des grands exploits avec Dieu. Au moment où, où Dieu lui dit à Moïse ces mots d'encouragement, Josué y était déjà il y a 40 ans, presque au même endroit. Le peuple de Dieu se trouvait à l'entrée, lui-même à la porte du pays promis. Nombre chapitre 13 à partir du verset 25. À l'époque, on a envoyé 12 princes, tous chefs des tribus d'Israël, pour espionner, pour explorer le pays promis par Dieu. Donc les 12 sont partis pendant 40 jours. Après 40 jours, les hommes qui sont allés se renseigner sur le pays de Canaan reviennent, dit le texte. Ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël. Ils leur disent ce qu'ils ont vu et ils leur montrent les fruits du pays. Jusqu'à là, je dirais, waouh, ça donne envie. Allons-y. Voici ce qu'il raconte à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai. C'est un pays qui déborde de lait et du miel. Et voici les fruits du pays. Si seulement le texte pouvait s'arrêter là. Voilà comment il continue. Malheureusement, les habitants qui habitent le pays sont puissants. Leurs villes sont grandes et protégées par des murs. Là où nous avons même vu des gens de la famille du géant Anak. Caleb, qui était un des princes explorateurs avec Josué, fait taire les Israélites qui critiquent Moïse et dit « Allons-y, montrez là-bas et prenons le pays promis. Nous aurons la victoire. » Mais les hommes qui sont montés avec Caleb disent « Non, ce peuple est trop fort pour nous. Nous ne pouvons pas l'attaquer. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands. Nous avons même vu des géants. À côté d'eux, nous avons eu l'impression d'être des sauterelles. Et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient, eux. Eux, grands et géants. Nous, petits et sauterelles. » Voir petit, n'est pas un signe d'humilité, les amis, mais c'est un signe d'incrédulité. On dit, il faut jamais se vanter. Donc, on fait toujours profil bas, n'est-ce pas? Détrompez-vous, les amis. Dans la conquête que Dieu met devant nous, voir petit n'est pas un signe d'humilité. Nous sommes petits, mais nous avons un grand Dieu. Mon œil, c'est vrai. Mais j'entends plutôt l'incrédulité quand vous dites, nous sommes trop petits. Je vous dis plutôt, refusez d'être intimidé par la taille de la tâche à relever. Ce n'est pas votre combat. L'Église n'est pas notre combat, mais celui du Seigneur. Il ne faut pas se tromper. Votre part est simplement, quand je dis simplement, pardonnez-moi, oser la foi. Avoir confiance en notre Dieu. Lui obéir. Et prendre en possession ce que Dieu nous a promis. C'est là notre tâche. C'est là la mission que je vous confie pour les années à venir. Caleb et Josué faisaient partie de ces 12 explorateurs, mais eux n'avaient pas contesté la vérité des renseignements fournis par les 10 autres espions. Mais ils rejettent les conséquences. Ils ne font pas la même interprétation de cette réalité qui, pour les 10 collègues, était immense, impossible, on vaincra jamais. Eux, ils faisaient une autre interprétation des choses. Tous ont essentiellement constaté les mêmes choses, les mêmes réalités, mais leur interprétation était différente selon qu'ils prenaient ou pas Dieu en compte. 10 disaient, nous ne pouvons pas vaincre. Et ils avaient raison. Vous êtes d'accord? Mais Caleb et Josué disaient, nous pouvons vaincre parce que Dieu sera avec nous. Et ça change toute la donne. Tout dépend de l'équipe et sa composition. Une équipe qui gagne est certainement une équipe qui a un joueur majeur, fort, un capitaine. Ok? Prendre ou ne pas prendre en compte Dieu. Ils reconnaissaient que les difficultés étaient réelles, mais ils croyaient fermement que l'Éternel leur accorderait quand même la victoire, même contre des géants. Les 10 autres étaient inspirés par la crainte et l'incrédulité et raisonnaient en termes humains et surtout par la logique. Donc, parmi les 10, il y avait 9 Français. Certes. Raisonner, la logique, analyser. Ils ont essentiellement dit que la conquête du pays était impossible et qu'ils seraient battus d'avance. Mais le peuple de Dieu ne dit jamais nous serons battus d'avance. C'est contre notre conception du combat. C'est contre le fait que dans notre équipe, nous avons pour capitaine le Dieu Tout-Puissant. Je ne me considère pas battu d'avance. Peut-être je ne vais pas gagner toutes les batailles. Mais avec Dieu, je vais gagner la guerre. La dernière bataille sera gagnée. Celle qui est la bataille de toutes les batailles. Ne nous encourage pas la parole de Dieu qui nous dit la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est l'apôtre Jean qui le dit dans sa première épître, chapitre 5, verset 4. Ou l'apôtre Paul qui dit en Romains 8, 31 et 37. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous resterons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Tu prends Dieu en compte et tu peux envisager la victoire. Tu marcheras seul, tu peux te fier à personne à part toi-même. En Philippiens chapitre 4 verset 13 nous lisons « Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. » Et celui qui a écrit l'épître aux Hébreux chapitre 11 verset 33 dit « Soutenus par leur foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule aux lions. » Voilà, ils vont fermer la gueule aux géants. Ma deuxième pensée est celle-là. Regardez les atouts que vous possédez et non ceux que vous ne possédez pas. Ça, c'est aussi une question de vision. Voir les autres comme géants et nous petits comme des sauterelles, ou voir plutôt les atouts que nous avons reçus de la part de Dieu et notre foi, au lieu de regarder toujours de ce qu'on ne possède pas. Surtout, ne vous comparez pas aux autres comment eux ils font, parce que vous êtes unique. Sachez que Dieu connaît vos handicaps, il connaît vos faiblesses avant de vous appeler. Et cependant, il vous a appelé. Dieu n'était pas surpris par la qualité de votre foi, par votre personnalité, de vos forces et de vos faiblesses. Ça n'avait aucune surprise pour Dieu, aucune. Il vous a choisi, il vous a appelé d'avance pour vous former et vous donner une foi qui fera de vous d'autres hommes et d'autres femmes et d'autres adolescents. En 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, nous lisons « Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes. Alors, ce que nous lui demandons, nous l'obtiendrons, c'est sûr. » Et je me demande parfois, cette certitude dans la foi, c'est sûr, Dieu nous donnera. J'en doute pas une seconde. Et puis, toutes choses sont possibles pour celui qui croit si elles sont promises par Dieu. Je ne dis pas toutes choses sont possibles, mais les choses qui nous sont promises dans la foi sont possibles. Et ce n'est pas une question si tu es capable ou pas capable. Ces choses que Dieu a préparées d'avance pour toi sont possibles. Tu y crois ou tu ne crois pas? Parce que Dieu les a promis. Et Dieu répond à ses promesses. Ne plaçons pas notre confiance dans ce qui nous semble être humainement logique. Ne plaçons pas notre confiance dans nos sentiments du moment ou de l'émotion du jour. C'est très, très variable. Certes, l'incrédule, lui, il connaît bien la puissance et les promesses divines, mais il est découragé face aux difficultés et aux différents dangers. Il connaît ce que Dieu a promis, mais il ne tient pas compte. C'est mémorisé comme quelque chose à savoir, mais ce n'est pas passé au niveau de la vie et de la foi. Que le Seigneur puisse nous aider dans notre incrédulité. Nous verrons alors que toute chose s'avère possible. Toute chose s'avère possible. L'apôtre Jean dit clairement à la fin de son évangile, en chapitre 20, verset 31, que son évangile avait pour but d'affirmer à ceux qui croient en Jésus et de leur donner l'assurance de la vie éternelle, comme un héritage, comme une conclusion, n'est-ce pas? Qu'ils croient en Jésus fermement et qu'ils aient l'assurance dans la vie éternelle. Ils savent et en sont persuadés qu'ils possèdent actuellement déjà tout ce que Dieu a promis, la vie éternelle et la force de la foi. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu est infiniment supérieur. Il s'agit du témoignage de Dieu lui-même affirmant que Jésus-Christ est son Fils. D'autre part, par l'exercice de leur foi, qu'ils ont en eux-mêmes, voilà, il est écrit ceci. Celui qui croit au Fils de Dieu et à son témoignage sera vainqueur avec lui. 1 Jean, chapitre 5, versets 9 et 10. Nous portons ce témoignage au-dedans de nous, un témoignage et une conviction vivante, intime et personnelle. Et aucune négation ne saurait ébranler, aucun doute pourrait faire défaillir notre foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme dit l'apôtre Paul, Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Bien plus que vainqueurs. Ce n'est pas vaincre, gagner de justesse. Nous sommes être bien plus que vainqueurs. Ma troisième pensée, reconnaissez que Dieu est avec vous comme il a été avec ceux qui vous ont précédé dans votre foi. Reconnaissez que Dieu est avec vous comme il a été avec ceux qui vous ont précédé dans la foi. Cela ne signifie pas qu'il va agir avec vous de la même manière qu'avec les autres. Avec moi, par exemple, ou avec Imke. Dieu fera avec vous, avec votre manière et à sa manière. En Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2, nous lisons, « C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule des témoins de la foi, d'ailleurs dont je voudrais être un pour vous, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit notre marche, en particulier du péché, qui nous cerne de tous les côtés et qui en lance si facilement, et courant avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée par Dieu devant nous. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef et je file parce que je vais courir jusqu'au but, jusqu'à la fin. Dans le même épître, chapitre 13, les versets 5 à 7, « Le Seigneur me vient en aide, je n'ai donc rien à craindre. Que pourraient me faire les hommes ? Souvenez-vous de vos anciens conducteurs. » Voilà, j'ai tout juste 56 ans, ancien conducteur, je disais, c'est un peu fort, mais quand même, c'est écrit. « Qui étaient les premiers à vous annoncer la parole de Dieu ? Prenez à leur façon de vivre et de mourir et prenez-les pour modèle de votre foi. » Et là, je me disais, ah, si seulement je pouvais être pour vous, pour chacun de vous, un modèle que vous aurez bien suivre. Ça, c'est un beau héritage que j'aimerais bien vous laisser. Heureux les chrétiens qui vivent de cette manière avant Dieu, se souvenant de cette parole de 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. « Dieu marche avec moi car c'est la seule preuve qui me distingue des autres sur la face de cette terre. » Et quatrième et dernière pensée, « Appuyez-vous sur la puissance qui agit en vous et appuyez-vous pas sur vos propres compétences. » J'ai lu une phrase qui m'a bien plu cette semaine. « Seule la foi permet de renverser la vapeur. » Et c'est vrai. Celui qui nous a appelés, dit la Bible, est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre qui a commencé en chacun de vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Et dans les psaumes, il est écrit, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Bon, vous voyez, c'est une question de stratégie de guerre. Hein? Les uns comptent sur les chars et l'autre sur les chevaux. Mais nous invoquons et nous célébrons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Mais nous faisons la différence. Psaume 20, verset 8. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe 3, verset 5. La foi ne doit pas nous conduire à nous comparer aux circonstances dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles nous cherchons notre chemin. La foi, c'est permettre La foi, c'est mettre la personne de Dieu en avant en réalisant que le Seigneur est bien plus grand que n'importe quelle situation difficile que nous allons rencontrer. Bien plus fort que toutes les oppressions qui s'opposent à nos vies et bien plus puissant que tous ceux qui combattent contre nous. Trop de croyants adoptent un comportement résigné en se comparant à des sauterelles devant des géants. Je ne sais pas si vous en faites partie, si vous voyez plutôt votre petitesse ou la grandeur et la puissance qui est dans la foi en Dieu. Cependant, le peuple de Dieu doit réaliser qu'il est appelé à combattre et de vaincre. Nous sommes appelés de combattre et de vaincre. Dieu n'accepte pas à ce moment où Josué et Caleb ont affaire avec 10 avis différents. Quel est leur? Dieu n'accepte pas qu'ils retournent en Égypte. La mer Rouge qu'ils ont passée à pied sec n'est désormais plus ouverte. Et rebrousser chemin par peur, ramène tout simplement dans les déserts duquel nous sommes juste sortis. Mais cette fois-ci, on va mourir à cause de notre incrédulité. Dieu, par ses encouragements, veut nous aider à ce que nous puissions prendre conscience que les véritables géants se trouvent pas autour de nous, mais les pires des géants se trouvent en dedans de nous. Et il faut les combattre en dedans de moi. C'est ma petite foi qui devient géant d'incrédulité. C'est paradoxe, n'est-ce pas? J'en viens conclure. Rappelez-vous qu'il n'y a que deux façons de voir. Soit que vous vous considérez comme une sauterelle ou comme un géant dans la foi. Qui se voit plutôt sauterelle? Qui se considère plutôt géant dans la foi? Pour transformer une sauterelle en géant et réduire un géant en sauterelle, il faut plusieurs choses. Tout d'abord, tout miser sur la personne de Dieu dans la présence ou l'absence font toute la différence. La présence ou l'absence de Dieu dans ta vie fait toute la différence. Seule la foi qui garantit sa présence. Ne pas se reposer sur nos capacités personnelles, notre savoir-faire, nos expériences, mais plutôt sur l'intervention surnaturelle de Dieu. Je vais continuer. Acceptons d'explorer notre propre vie et combattons nos propres géants intérieurs. Et soyez motivés et ne vous laissez pas décourager par la vision défaitiste des autres. Gardez votre propre vision. Développons une vision spirituelle par une communion constante avec le Saint-Esprit. Faisons tout notre possible pour encourager ceux qui sont associés à nous, les frères et sœurs, notre Église. Acceptons de relever tous nos vos défis que Dieu place devant nous, que Dieu place et placera encore devant vous. Entretenons un esprit de conquête et de vainqueur. Et pour cela, fortifie-toi et prends courage. Amen. Prions. Seigneur, dans nos doutes et nos questionnements par rapport à ce qui est notre propre vie et ce qui sera la vie de l'Église, Seigneur, nous voulons te redire aujourd'hui notre assurance et notre confiance que nous avons en toi. C'est toi qui as fait naître cette Église, Seigneur, c'est toi qui la feras vivre avec chacun et chacune. Merci, Seigneur, de nous donner la force et le courage d'envisager les défis par la foi et par une confiance en toi. Oui, nous voulons oser croire. Amen. Et faites d'après votre Amen, dites.